France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Durant l'été, Donald Trump s'est activé pour faire signer au plus vite nombre de traités de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, entre la RDC et le Rwanda, dans un accord bancal et contesté, ou encore une infructueuse tentative de médiation entre Poutine et Zelensky. Mais la diplomatie au pas de charge est-elle suffisante pour faire sortir des États de la guerre? En effet, le triptyque négociation, armistice, paix ne semble plus opérant pour comprendre comment les États, les groupes armés, mais aussi les sociétés tout entières sont sortis des logiques de conflit. Pour l'historien Guillaume Piketty, c'est une longue période de sortie de guerre qu'il faut convoquer pour mieux saisir ce moment entre le bruit des armes et l'harmonie de la paix. Alors, peut-on tresser des caractéristiques communes de sortie de guerre, des guerres de religion à la Seconde Guerre mondiale, en passant par la guerre de sécession? Pour nous éclairer, vous l'aurez compris, Guillaume Piketty, bonsoir.
Bonsoir Quentin Lafay, merci de me recevoir.
Merci d'être ici, vous êtes professeur d'histoire, directeur du centre d'histoire de Sciences Po. Vous avez dirigé un ouvrage riche, passionnant, intitulé « Sortir de la guerre, des guerres de religion aux conflits asymétriques » qui paraît ce mercredi aux éditions Passé Composé.
C'est une avancée considérable. En quelques mois seulement, nous avons réussi à instaurer la paix entre l'Inde et le Pakistan, Israël et l'Iran, la RDC et le Rwanda, ainsi que dans quelques autres pays.
À l'heure où nous parlons, il rétablit la paix dans un pays après l'autre, dans une région après l'autre. Alors je voudrais vous présenter, Monsieur le Président, la lettre que j'ai envoyée au comité du prix Nobel.
Lorsqu'on écoute Donald Trump, Guillaume Piketty, on a le sentiment, d'ailleurs tout au long de ses agitations au cours de l'été, qu'il suffit pour obtenir la paix de signer un accord de paix, peut-être même une vision contractuelle de la paix. Est-ce que vous souscrivez à cette idée et à cette vision ?
Bien sûr que non. Parvenir à la paix, c'est le cas échéant... signer des accords diplomatiques, c'est évident, faire en sorte que les armes se taisent, mais c'est autant, sinon beaucoup plus, parvenir à une démobilisation des esprits, et ça ne se décrète pas. Donc, quoi que puisse en penser le président américain, les choses risquent d'être plus longues, plus difficiles et plus complexes, bien évidemment.
Alors plongeons dans l'histoire justement, c'est ce que vous faites avec beaucoup de vos collègues dans cet ouvrage intitulé, je le répète, Sortir de la guerre, et vous tirez le fil de quatre étapes d'une sortie de guerre. Alors avançons dans l'ordre, commençons dans la première, et grâce à beaucoup d'exemples que vous nous donnerez, la première étape naturellement c'est l'arrêt progressif des combats. Pourquoi est-il progressif cet arrêt ?
Parce que en fonction de la guerre dont il s'agit, en fonction des batailles qui se déroulent, en fonction de la façon de s'entretuer que les gens emploient, de l'époque, des tactiques, des armes, cet arrêt ne peut pas se décréter comme ça d'un coup. Et donc cela se fait progressivement, par endroits ça fonctionne, d'autres endroits moins, mais par définition ça prend du temps. A fortiori, lorsque l'on remonte dans l'histoire et que l'on s'intéresse à des conflits durant lesquels les moyens de communication n'étaient pas ceux dont nous disposons aujourd'hui.
Ce qui est frappant lorsqu'on vous lit, c'est qu'on apprend également que cette période-là, ce segment de l'arrêt progressif des combats, est souvent le plus violent des guerres. On y observe un regain de violence. Il faut nous expliquer pourquoi.
Mais alors, vous savez, on peut imaginer que les combats deviennent de plus en plus désespérés. Celles et ceux qui combattent souvent depuis longtemps, sont épuisés, peuvent être animés par un désir de vengeance. Les vaincus qui s'en vont peuvent avoir envie de tout casser. À l'inverse, celles et ceux qui arrivent et qui vont occuper peuvent donc vouloir se venger, comme je le disais. Donc surcroît de violence contre les individus et aussi contre les infrastructures, le cas échéant contre l'environnement. Donc oui, cette période d'arrêt progressif des combats est souvent une période de violence, voire de violence extrême.
Et puis, j'allais dire, la guerre ne s'arrête pas lorsque cessent les combats officiellement. Prenons l'exemple de la Première Guerre mondiale. On a appris à l'école qu'elle durait de 1914 à 1918. Vous nous apprenez qu'elle s'arrête en réalité à 1923. Alors qu'est-ce que c'est que ces reliquats guerriers qu'on observe durant plusieurs années ?
Alors nous n'apprenons rien du tout. Ce sont des choses qui ont été publiées depuis quelques années.
En tout cas,
quand même,
moi j'y apprends.
Non, mais je me réjouis que vous l'ayez lu et retenu. Non, c'est cette idée que cette vision selon laquelle ça s'arrête en 1918 est une vision très franco-centrée, très Europe de l'Ouest centrée. Mm-hmm. En fait, il y a eu des poursuites guerrières ou des conséquences guerrières jusqu'en 1923. Alors, surtout au centre et à l'est de l'Europe, qu'il s'agisse d'éléments de guerre civile, qu'il s'agisse de révolutions, enfin voilà, donc les combats ont continué, bien sûr.
Mais est-ce que c'est une spécificité de la Première Guerre mondiale, ou bien, j'allais dire, c'est chose commune que la guerre s'étire dans le temps, après même un accord de paix, après même un cessez-le-feu ?
Je crois qu'il faut se garder de tout systématisme. Mais c'est une caractéristique que l'on retrouve dans beaucoup des conflits que nous avons étudiés dans cet ouvrage, donc depuis les guerres de religion en Europe jusqu'à aujourd'hui.
Oui. La deuxième étape, j'allais dire, elle se place à hauteur d'hommes, à hauteur de personnes justement qui ont été immergées dans cette guerre. Et je veux parler du retour des soldats, des déplacés, des exilés. Que raconte justement ce moment de la sortie de guerre ?
Que c'est un temps de basculement identitaire. Un temps de basculement intime. Alors pour les combattants, mais on cesse d'être un combattant, on va retirer un uniforme, on cesse d'être un partisan. Mais pour les déplacés que vous avez évoqués, pour les prisonniers de guerre, qui ne combattaient plus ou qui n'ont pas combattu, mais qui ont vu passer le phénomène guerrier, ce sont des moments dans lesquels il faut en quelque sorte se réinventer. Donc des moments de basculement identitaire et forcément basculement intime. Aussi des moments de reconnaissance. Ce sont des moments durant lesquels l'économie, ce qu'on appelle l'économie morale de la reconnaissance, va se développer davantage encore que ce qui a été fait pendant le conflit lui-même. Reconnaître que tel ou tel s'est battu, tel ou tel a subi des violences, a été victime de tel ou tel fait, tel ou tel acte. Et puis, ce sont aussi des processus. Enfin, ce moment de l'arrêt, du retour, c'est le moment aussi du début de la prise en charge de celles et ceux qui ont été confrontés, ont participé au phénomène guerrier, du début de la prise en charge, quand elle est possible et quand elle a lieu, ce qui n'est pas toujours le cas. Prise en charge au plan physique, prise en charge au plan psychique, le cas échéant, vous voyez.
Je reviens un instant quand même sur, pardonnez-moi, sur cette expression que vous avez employée de basculement identitaire. On apprend là aussi en vous lisant à quel point la guerre forge l'identité de celles et ceux qui la traversent. Comment on se départit peu à peu de cette identité ? Et d'ailleurs, est-ce qu'on s'en départit fondamentalement en sortie de guerre ?
C'est un des grands mystères de ce sujet des sorties de guerre, qui en fait un sujet absolument passionnant, un sujet malheureusement d'actualité, et je pense pour l'éternité, mais c'est un des grands mystères, c'est-à-dire comment se déprend-on de cette identité que l'on a forgée au fil du conflit, identité de combattant, de partisan, de résistante, de déplacé, de personne partie en exode, de prisonnier ou de prisonnière, et finalement, est-ce que c'est possible ? C'est pas sûr. Ça dépend des gens, ça dépend de ce qu'ils ont traversé. C'est pas sûr qu'il soit possible de complètement se déprendre.
Dans un chapitre passionnant qui met la lumière sur la guerre de sécession, sur la fin de la guerre de sécession, est signé Brian Matthew Jordan, on apprend cette fois-ci que beaucoup de combattants, de soldats sont nostalgiques de cette période guerrière. C'était peut-être au fond la période la plus exaltante de leur existence, une période qui donnait du sens à leur action, qui donnait du sens à leur quotidien. Et quand tout cela se termine, eh bien on se met à regretter le passé.
Alors oui, je crois qu'il faut prendre les choses avec beaucoup de subtilité, tenter de le faire avec beaucoup de subtilité. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire, effectivement, il y a cette forme de nostalgie qu'il décrit, mais que d'autres auteurs, autrices du livre décrivent, d'un temps extraordinaire, d'un temps où l'on vivait des choses tout à fait étonnantes, où l'on rencontrait des gens, où l'on se trouvait dans des lieux parfaitement inattendus. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ces gens qui sortent de la guerre auraient aimé qu'elle continue. Donc voilà, c'est nostalgie certes, mais c'est peut-être mieux que ce soit terminé enfin, vous voyez, donc c'est une forme d'ambiguïté.
Mais beaucoup décrivent par exemple la peur de l'ennui, la peur de se retrouver sans n'avoir rien à faire, la peur des journées confrontées à la paix.
Oui, alors ils et elles décrivent aussi la peur de se retrouver sans cette camaraderie extraordinaire née durant le conflit. Cette solidarité, cet esprit de corps, mais en tout cas cette peur de l'ennui en a conduit un certain nombre, voire même un nombre certain, à chercher un autre conflit à livrer, à chercher une autre armée dans laquelle s'engager pour poursuivre ses activités guerrières à nouveau.
Voilà. Je voudrais citer justement cet article, ce chapitre en particulier sur la guerre de sécession. Si, comme l'a écrit l'historien John Horn, la paix consiste à forcer le vaincu à accepter l'idéologie du vainqueur et sa vision de l'histoire, aux États-Unis, après la guerre de sécession, il n'y a pas eu de paix, mais une guerre qui a simplement revêtu des formes inédites. Que veut-il dire par là? Quelles sont ces formes inédites de la guerre qui se poursuit après la paix?
Oh, je crois qu'il veut souligner le fait que, en dépit des espoirs nés à la fin de la guerre civile américaine, que naisse une société plus juste, en particulier pour ceux qu'on appelle aujourd'hui les African Americans, ces espoirs n'ont pas été comblés, n'est-ce pas? Cette guerre civile s'est poursuivie d'une façon larvée, mais bien réelle. Il faut quand même voir que c'est dans les années 1960 que le combat pour les civil rights reprend et va faire des progrès, mais il s'est passé presque un siècle. Donc oui, c'est une autre forme de guerre.
Troisième étape, Guillaume Piketty, de cette sortie de guerre sur laquelle vous mettez la lumière, la démobilisation culturelle et évidemment les deuils. Mais commençons justement par cette démobilisation culturelle. De quoi s'agit-il ?
Alors, c'est un concept qui a été inventé par l'historien que vous avez évoqué, un immense historien, John Horn. Il dit que à la fin d'un conflit peut se dérouler une démobilisation culturelle qui va s'organiser autour de quatre pôles. D'une part, l'idée de construire un futur digne du sacrifice qui vient d'être consenti. Donc, réformons le pays, réformons la collectivité, mettons en place des formes de rénovation.
À la hauteur des pertes et du sacrifice.
Exactement. Donc, c'est première partie. Deuxième partie, transformer la figure de l'ennemi, c'est-à-dire ceux qu'on a dû tuer, massacrer le cas échéant pendant des années, tout d'un coup reviennent des êtres humains avec lesquels il faut converser comme avec naturellement tous les êtres humains. Reformer les communautés supranationales qui ont été fracassées par la guerre, communautés scientifiques, communautés religieuses, communautés sportives. Regardez, au sortir de la Première Guerre mondiale, combien de temps faut-il pour que les vaincus puissent envoyer des athlètes aux Jeux Olympiques? Il faut attendre 2024 pour certains et 2028 pour l'Allemagne. Bon, donc là, cette communauté supranationale sportive...
1924-1928.
Oui, absolument. Énorme lapsus, mais vous aviez compris. J'espère que les auditeurs et auditrices auront compris. Donc il faut du temps, vous voyez, donc reconstituer ces communautés supranationales. Et puis enfin, se mobiliser contre une possible guerre future. Et donc ça va être la création de la Société des Nations, de l'ONU, de la Communauté Européenne. Voilà. Et donc, John Horn montre ce processus de démobilisation culturelle qui est en fait très compliqué à mettre en œuvre, que ça ne marche pas pour tout le monde tout de suite.
Comment est-ce qu'on, si je m'arrête sur l'un des points que vous avez décrit, comment est-ce que l'on transforme la figure de l'ennemi, cet ennemi que l'on a parfois animalisé, que l'on a détesté, haï? Vous avez notamment raconté, cet aviateur français, qui se retrouve à Londres et qui se met à détester, à haïr les Allemands, qui remettra un temps certain à réécouter la musique de Wagner. Comment se mettons, voilà, à retrouver de l'humain dans la figure ennemie?
Vous savez, là encore, je pense que c'est une démarche qui est fondamentalement individuelle. Donc, établir un système, une méthode, ou penser que ça puisse exister, est à mon avis une gageure. Je pense que ça dépend beaucoup de ce que la personne qui est susceptible de transformer la figure de l'ennemi a vécu, a subi le cas échéant des mains de l'ennemi. Ça dépend du deuil qu'il ou elle traverse, des blessures éventuelles, des pertes de biens, vous voyez. Ça dépend aussi de ce à quoi il ou elle croit. Donc c'est très personne dépendant. Ça peut durer longtemps.
Le quatrième moment, nécessairement, c'est la question de la mémoire. Comment est-ce que vous l'abordez? Comment est-ce que vous l'articulez avec la question de la sortie de la guerre?
Là, ce que nous considérons, si vous voulez, c'est que une fois que les combats sont arrêtés, que les gens sont rentrés, que la démobilisation culturelle, le cas échéant, s'est enclenchée, qu'on le veuille ou non, des jeux et des rejeux de mémoire ont lieu au niveau individuel, des mémoires de groupe également. Au niveau scientifique, à chaque fois qu'un prof ou une prof parle, il va impacter la mémoire de celles et ceux qui l'écoutent. Au niveau politique, avec une instrumentalisation, le cas échéant, du conflit, par tel ou tel groupe politique, par des gens au pouvoir. Et donc, à partir de là, les mémoires s'entrechoquer, vont s'empiler les unes sur les autres pour provoquer des évolutions. Mais ça, encore, c'est quelque chose dont on voit assez bien le début du commencement, à la fin du conflit, mais dont il est quelquefois difficile de détecter la fin.
Je voudrais qu'on revienne sur cette notion de sortie de guerre qui émerge dans les années 2000, notamment à travers les travaux de Stéphane Audenrouzeau sur la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'il apporte, ce concept, par rapport au concept classique de l'histoire traditionnelle, l'avant-guerre, la guerre, l'après-guerre? Qu'est-ce que cela permet de mieux comprendre, cette sortie de guerre?
Cela permet de mesurer à quel point le phénomène guerrier est quelque chose qui bouleverse dans les profondeurs la vie des individus qui y sont confrontés. Et cela permet de donner une densité, je dirais, profondément humaine à quelque chose qui, jusqu'à ce que l'idée de sortie de guerre s'impose selon les modalités que vous avez évoquées, était considéré comme un peu rapide, presque immédiat. Voilà, on décide, c'est terminé, on passe à autre chose. En fait, ça ne marche pas du tout comme cela. Et ça ne marche pas comme cela au niveau collectif d'une société, ça marche encore moins comme cela si l'on s'intéresse aux individus, ce qui est quand même, en tout cas pour moi, le plus passionnant quand on fait de l'histoire.
Il me semble que c'est par ailleurs un concept qui remet en cause la frontière traditionnelle entre guerre et paix, que les zones justement où la guerre est teintée de paix, où la paix est abîmée par les conflits, ces moments-là sont de plus en plus nombreux dans l'histoire, sont de plus en plus nombreux aussi dans la période contemporaine, ces zones grises entre guerre et paix.
Oui, d'autant plus que on peut décider qu'un conflit va se terminer, mais on l'a dit tout à l'heure, il peut repartir ailleurs. Où il peut repartir au même endroit simplement parce que les braises n'étaient pas suffisamment, enfin n'étaient pas éteintes, oui. Et donc effectivement, il y a des recouvrements de conflits qui font que les mémoires de l'un vont jouer dans le conflit suivant et donc créer de nouvelles mémoires. On peut aussi considérer un pays comme les États-Unis d'Amérique qui sont nés de la guerre et qui ont quand même passé leur temps à être en guerre, civile ou autre. Et donc oui, c'est quelque chose dont la finitude est très discutable.
Est-ce que ce concept de sortir de la guerre, de sortie de guerre, est opérant dans le monde que nous connaissons aujourd'hui, un monde justement où les conflits asymétriques, ou les guerres asymétriques, qui sont des guerres structurées justement, où un État se bat contre souvent des groupes non officiels, des groupes terroristes ou non, mais où la guerre entre deux États est moins classique, est-ce que ce concept-là est opérant pour comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui?
Alors, question compliquée et à laquelle il faut répondre rapidement. Et donc, je commence par renvoyer celles et ceux qui nous écoutent au superbe chapitre 9, le dernier du bouquin, qui a été rédigé par Victor Louzon et Elie Tenenbaum, qui réfléchissent de façon très approfondie sur ces questions. Je crois que, pour les temps actuels, il est possible de parler de complexification et d'intensification. Complexification parce que, vous l'avez dit, la nature des conflits est extrêmement variée, parce que cette conflictualité est insérée dans un système d'interdépendance, donc ça s'arrête dans un coin mais ça repart ailleurs, parce que la notion de victoire est discutable et tout à fait discutée, et enfin parce que les modalités de fin de conflit sont multiples. Qu'il s'agisse de modalités diplomatiques, qu'il s'agisse de l'intervention d'une force internationale, qu'il s'agisse de forces d'interposition multinationales. Bon. Donc c'est extrêmement complexe, de plus en plus complexe. Et puis intensification, si on se passe au plan personnel, parce que on voit monter la notion de victime de façon très très forte dans les dernières décennies. On voit monter l'importance du témoignage qui devient une sorte d'impératif social, d'impératif moral. Il faut témoigner de ce à quoi on a assisté, n'est-ce pas ? Parce que la justice joue un rôle de plus en plus important, qu'il s'agisse de des justices nationales, de la justice internationale, de toutes les formes de justice transitionnelle, n'est-ce pas ? Justice qui va donc dire l'histoire, et va donc dire comment il faut penser ce qui vient de se dérouler, ou ce qui s'est déroulé il y a quelque temps. Et intensification, parce qu'évidemment tout ça résonne dans les individus, au plan mémoriel ou dans leur vie quotidienne. Donc c'est plus complexe, c'est probablement de plus en plus intense, mais néanmoins, conclut-il, Victor Louzon et Elie Tenenbaum, il est possible de retrouver dans cette multitude de conflits qui existent un peu partout et qui quelquefois se superposent, les grandes caractéristiques, les grandes temporalités que nous venons d'évoquer.
C'est complexe, vous l'avez dit, mais je voudrais décortiquer ce que vous venez d'exposer. Vous parlez des victimes, j'allais dire, de la place de plus importante des victimes dans l'après-conflit. Qu'est-ce que cela change concrètement, justement, cette place légitime donnée aux victimes ?
Alors, ça donne, je pense, le fait, d'abord, le fait que de plus en plus de gens peuvent parler. Vous voyez, symboliquement, les victimes ont pris la place des héros, en quelque sorte. Vous voyez, alors, il n'y avait pas tant de héros que cela, ou d'héroïnes que cela. Des victimes, malheureusement, il y en a souvent beaucoup plus. Bon, donc, de plus en plus de gens sont susceptibles de parler. Et puis, ça donne une intensité émotionnelle à ce qui est dit, à ce qui est porté, à ce qui est mis en avant, de plus en plus considérable.
Parce que le héros racontait peu, parce que le héros racontait moins ce qu'il avait traversé, vécu.
Voilà, et parce que le héros ou l'héroïne, aujourd'hui, les victimes vont se constituer en groupe de pression. Il va y avoir ce qu'on appelle une concurrence des victimes, avec l'idée de faire reconnaître sa souffrance ou la souffrance que le groupe porte comme plus importante que celle du groupe d'à côté, et donc susceptible d'être davantage reconnu, davantage accompagné, je dirais. Et donc, cette concurrence fait qu'on en parle encore plus, vous voyez. Donc, oui, importance des victimes.
Et sur cette notion de victoire que vous avez vous-même évoquée, pourquoi est-elle de plus en plus fragile, de plus en plus difficile à définir une victoire? C'est compliqué, justement, à identifier?
En théorie, une victoire, c'est lorsque l'un des camps parvient à imposer ses vues à l'autre camp. Mais lorsque les conflits ne s'arrêtent pas vraiment, lorsque les conflits ressurgissent à d'autres endroits ou un petit peu plus tard, peut-on parler véritablement d'une victoire? Nous évoquions tout à l'heure la guerre civile américaine. La victoire des forces de l'Union est indiscutable. Bon, mais vous l'avez dit, et j'ai souscrit, le résultat concret dans l'organisation de la société de l'ancienne Confédération a été à la fois important, mais pas aussi important que ce que l'on pouvait imaginer. Donc c'est une victoire ou une demi-victoire, vous voyez. Donc c'est une notion qui est, à mesure que l'on avance dans la fin du 19e et surtout tout le long du 20e et au début du 21e, extrêmement discutable.
Direction Chypre maintenant pour y aborder la notion de conflit gelé.
Il n'y a plus de retour pour nous. La situation est irréversible, les dés sont jetés. Nous viendrons voir la ville pour une promenade comme touristes, avec nos amis. C'est tout ce qu'on pourra faire.
Non.
On ne récupérera même pas nos biens. Rien. On ne pourra rien récupérer.
Et tout est fini apparemment.
La situation est tragique. La seule chose qu'on pourra faire, c'est être des touristes.
Des touristes dans notre propre ville.
On me dit d'aller à la manifestation de demain. Mais pourquoi y aller? Ça ne sert plus à rien. Tout est fini pour nous. J'irai tout au plus y faire un tour pour voir mes amis. Tout est fini et personne n'empêchera les Turcs de continuer ce qu'ils ont commencé.
L'île de Chypre, on le rappelle, en Méditerranée orientale, est le théâtre d'un conflit géopolitique gelé depuis des décennies. L'invasion de la Turquie en 1974 ayant abouti à couper l'île en deux entités. Comment est-ce que vous abordez alors cette notion de conflit gelé? C'est une sortie de guerre qui n'en finit pas ou c'est une paix qui ne vient pas?
Les deux. C'est-à-dire que c'est une sortie de guerre qui n'en est pas une. Puisqu'il reste deux camps qui ne s'affrontent pas, mais qui sont l'un face à l'autre, et c'est une paix qui ne peut pas venir. Il suffit d'écouter les témoignages de ces Chypriotes qui ont compris qu'ils ne pourront pas revenir, en tout cas ils ne peuvent pas pour l'instant, et ça risque de durer, revenir chez eux, chez elles. Donc en fait c'est les deux.
La notion de cessez-le-feu que l'on entend un peu partout dans l'actualité en ce moment, s'agissant de l'Ukraine, s'agissant du Proche-Orient évidemment, est-elle opérante là aussi pour tenter de comprendre ces sorties de guerre? Et surtout, peut-on faire confiance au regard de l'histoire, au regard des exemples historiques, à la force des cessez-le-feu?
Oui, on peut faire confiance puisqu'il est arrivé que cela fonctionne, mais il ne faut pas imaginer que ça fonctionnera systématiquement. Mais le cessez-le-feu, qu'est-ce? C'est la décision de cesser de s'entretuer, mais ça ne veut pas dire que celles et ceux qui se sont entretués ou qui ont subi le conflit vont désarmer dans leur tête. Vous voyez, donc ça, le cessez-le-feu dit le début d'un possible processus de sortie de guerre, mais ne dit rien du déroulement, d'abord, de l'actualité effective de ce processus, de ce que va être son déroulement, de ce que sera peut-être sa fin ou non. Donc oui, c'est bien sûr très utile, mais ça n'emporte rien de la suite.
Ça n'emporte rien de la suite, ça veut dire qu'il faut forger d'autres concepts. Là encore, j'allais dire, au regard de l'histoire et des exemples fournis dans cet ouvrage, quelles leçons vous tirez des cessez-le-feu? Comment ils se distinguent de l'armistice d'abord et surtout, pourquoi sont-ils moins robustes parfois?
Parce que c'est le feu, c'est, je dirais, si vous voulez, un armistice, il y a un accord est signé, une des forces politiques sont normalement au soutien de cet accord et vont donc faire en sorte qu'il soit respecté et faire en sorte de mettre les collectivités concernées en ordre de marche dans cette nouvelle situation. Bon, cesser le feu, c'est décider qu'on va cesser tel jour, telle heure, à tel endroit, cesser de s'entretuer, mais ça n'emporte a priori rien de la mise en marche de ces forces politiques et sociales et de la suite, comme on l'a dit tout à l'heure. Oui.
En tout cas, on recommande à la lecture de cet ouvrage collectif que vous avez dirigé, Guillaume Piketty, intitulé « Sortir de la guerre, des guerres de religion aux conflits asymétriques » qui sort cette semaine aux éditions Passé Composé. Merci d'être venu ce soir à Question du Soir et merci à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Bertie Bourdon, Roxane Poulain, Bruno Barda, la réalisation, c'est François Richer et c'était Mineta Diawara aux manettes. C'est 19h28.
France Culture.